énergie renouvelable,
désertification,
santé publique,
eau potable,
environnement médiatique,
développement durable,
technologie,
écologie,
économie,
droits humains, démocratie, respect de la
politique internationale, biodiversité,
pollution, paix.
Parce que pour faire avancer les idées, il faut les brasser. Cette semaine à Delirium Environnemental, le magazine d'information en environnement à la radio. On vous fait une super revue de presse, revue de l'actualité extensive, parce qu'il s'en est passé des choses cette semaine en environnement. On vous parle entre autres de la paix des braves, de gros kakuna ou de kakuna tout court pour les intimes, de fleurs équitables, de pluviométrie et de beaucoup, 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 beaucoup d'autres choses. Comme d'habitude, on se permet de terminer l'émission avec nos coups de cœur, coups de masse et au calendrier. Cette semaine, à vos crayons tout le monde, il y a beaucoup de choses qui se passent en environnement au Québec. Sofiane Legendre au micro pour vous divertir, mais surtout, j'espère vous informer en compagnie de l'équipe Bionique. Et j'ai nommé rien de moins que Nicolas Mainville. Nicolas, ça va bien?
Ça va très bien, merci. Et toi?
Très bien, merci. Nicolas Milo, ça va bien aussi?
Excellent. Pas fatigué du tout.
Pas fatigué du tout, jeune papa, que voulez-vous? C'est en grande forme pour venir nous parler d'informations en environnement. L'équipe Bionique, c'est bien sûr aussi Patrick Bonin, qui n'est pas en onde aujourd'hui, qui sera de retour la semaine prochaine, ainsi que Étienne Côté-Paluc, qui fait notre magnifique site web et aujourd'hui la mise en onde, peut-être pour une dernière fois, qui sait? Étienne Côté-Paluc, donc, qui fait le www.radiodelirium.net. Ça, c'est notre site Internet. C'est également lui qui monte la cyberlette qu'on vous envoie à chaque semaine si vous avez la bonne idée de vous abonner, ce qui peut aussi vous servir de veille médiatique en environnement. Donc, grosse semaine en environnement. Sans plus tarder, on brise la glace en vous parlant de la semaine, pas de la semaine, mais la journée sans voiture, en ville sans ma voiture, qui avait lieu jeudi le 22 septembre 2004 pour une troisième édition consécutive. Un franc succès, si on en juge notamment par la couverture médiatique qu'a suscité l'événement. Pleine page de la presse le vendredi matin, où est-ce qu'on couvrait l'événement? Non, le jeudi matin même, où est-ce qu'on couvrait l'événement? Donc, grosse couverture à flash, ils en ont parlé aux nouvelles. Partout, on en a parlé. Donc, un bel événement qui a porté ses fruits encore cette année.
Oui, chose certaine, on dit que les médias sont un joueur de plus en plus important dans les problématiques environnementales. Ben, au moins, on pourra se rabattre sur les médias pour dire que la journée en ville sans ma voiture a été un succès. Effectivement, on a vu une couverture partout, autant dans les milieux communautaires que dans les grandes chaînes, Radio-Canada, TVA, on en a vu passer à gauche et à droite. Donc, le problème a sans doute pas été là. Au niveau des chiffres, des trucs très comparables aux dernières années pour ce qui est de Montréal. Donc, on parle d'une réduction quand même notable des taux de monoxyde de carbone, des taux de monoxyde d'azote aussi durant la journée. Le bruit aussi en milieu urbain qui était moins important, sauf peut-être pendant le show sur l'heure du midi. Si vous êtes habitué de manger sur Place des Arts, c'était très bruyant. Mais bref, encore une fois, les améliorations qu'on note année après année. Chose qui était aussi intéressante, c'est qu'il n'y avait pas juste Montréal cette année au Québec. C'était aussi la ville de Québec, la ville de Trois-Rivières, la ville de Gatineau, donc qui emboîtait le pas à Montréal dans ce filon d'événements-là.
Et évidemment, faut mentionner le fait que les chiffres, en fait, les chiffres que tu n'as pas donnés encore sur la réduction de bruit de monoxyde d'azote et de monoxyde de carbone, c'est évidemment des chiffres qui sortent du périmètre qui a été fermé à la circulation. Faut comprendre que, encore une fois, la journée sans ma voiture à Montréal a été, teintée du fait que c'est un périmètre encore très petit. J'ose faire cette remarque négative du fait que c'est encore très timide comme mouvement. Je pense que l'Europe avait lancé le bal avec la journée sans ma voiture depuis 1998, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Et puis, ce qu'on est en train d'observer en Europe, par contre, c'est un essoufflement du mouvement.
Tout à fait. Les villes de Paris, entre autres, qui n'ont pas embarqué cette année. Rome aussi, qui a de beaucoup réduit la superficie qui était restreinte au niveau de la circulation automobile. Et quand on regarde la ville de Montréal, bon, ça fait 3 ans, c'est un succès qui est quand même présent année après année. Je pense que maintenant, il est le temps de passer à quelque chose d'autre. Claude Dauphin, de la Société de transport de Montréal, qui nous dit qu'on fait davantage dans la sensibilisation. Mais écoutez, M. Dauphin, une rue, c'est Sainte-Catherine, qui est déjà fermée la moitié de l'été à cause des festivals. Faut pas se le cacher, il n'y a pas grand changement dans cette journée-là, comparativement à tout l'été qu'on vient de passer, qui est fermée hors des heures de pointe.
Exactement.
Donc, les gens peuvent venir au centre-ville en auto le matin, peuvent retourner le soir chez eux. Moi, je fais Verdun centre-ville à tous les jours et honnêtement, je n'ai vu aucune différence.
Mm-hmm.
Donc,
Et oui, tu le fais à vélo, là.
Et je le fais à vélo, oui, oui, pas en auto.
En vélo, bien entendu. François Cardinal, éditorialiste à La Presse, qui parle souvent de transport, notamment, mais aussi d'environnement, mais plus particulièrement de transport, il va avec une série de recommandations, parce que justement, moi, je parlais de l'impact médiatique, enfin, qu'a eu cette journée sans voiture, une troisième édition qui, enfin, suscite une certaine couverture. Et donc, François Cardinal, il va de certaines recommandations, notamment que cette journée-là, on devrait donner le transport en commun gratuit pour tous, pour que, justement, les gens qui le prennent pas habituellement...
Si on va dans la sensibilisation, allons-y au complet.
Exactement, exactement. Donc, il suggérait particulièrement ça, mais qu'il va aussi de recommandations qui sont bonnes tout au cours de l'année, pas simplement la journée sans voiture, c'est-à-dire, par exemple, que votre titre de transport en commun soit déductible d'impôt, que si vous prenez le transport en commun toute la semaine, vous avez droit d'inviter votre famille à prendre le métro avec vous la fin de semaine gratuitement, parce que c'est votre famille et puis c'est la fin de semaine, donc pourquoi pas, que la CAM, donc déductible des revenus, bien sûr, mais aussi qu'il fait remarquer que les employeurs paient souvent le stationnement à leurs employés, tandis qu'ils n'offrent aucune gratuité, aucun avantage à ceux qui se déplacent en transport en commun, donc ce serait peut-être une belle idée également. Donc, moi, je vous parlais de la couverture médiatique, comme d'habitude, j'y étais très sensible. Un cahier spécial sur les métros et le système de transport en commun dans le monde, dans la presse de cette fin de semaine. Des choses bien intéressantes, notamment à Tokyo, qui a un super système de transport en commun.
Hallucinant.
5,7 millions de personnes qui se déplacent chaque jour. Et puis, Nathalie Collard, qui a écrit l'article, faisait remarquer que, justement, la popularité du réseau de transport en commun, notamment du métro là-bas, est due au fait que les employeurs paient le transport en commun pour leurs employés. Donc, moi, je trouvais que c'était une joyeuse idée. Puis l'autre chose, il y a toujours le problème de la sécurité là-bas. Plusieurs se sentent bien en sécurité. Par contre, les femmes ont encore plusieurs problèmes, se font achaler à l'heure de pointe. Il paraît que là-bas, la bulle personnelle n'existe pas. Donc, à Tokyo et à Kobe aussi, notamment au Japon, on a décidé de réserver certains tramways, certains wagons, je m'excuse, à l'heure de pointe uniquement pour les femmes. Donc, c'est des femmes, c'est des women-only wagons. Puis comme ça, les femmes sont sûres de ne pas se faire achaler. Demain, courons. Oui, c'est beau, hein? Alors voilà, mais beau clin d'œil, franchement, ça devrait peut-être se poursuivre.
Mais moi, peut-être que je finirais dans le fond avec quelques recommandations pour l'année prochaine. Premièrement, ce serait peut-être l'occasion idéale pour lancer les fameuses pistes cyclables que notre chère maire nous promet. Celle de Maisonneuve devait être faite cette année. On l'attend toujours. Ça aurait été une fichue belle journée pour lancer ça. Deuxièmement, aussi, impliquer davantage le secteur commercial qui, à chaque année, dénigre cet événement-là en disant que ça va éloigner les clients. Et dernièrement, faites attention parce que Stephen Harper a promis de déduire les titres de transport de vos prochains impôts s'il est élu. Alors, ce n'est pas une raison pour voter conservateur aux prochaines élections. Merci beaucoup.
Donc là, Nicolas Milo. Merci beaucoup. Au retour, on vous parle d'énergie, on vous parle de Kakuna. Retour à Delirium environnemental, le magazine d'information en environnement. Je vous rappelle qu'on vous fait cette semaine une petite revue de l'actualité que vous pouvez trouver au www.radiodelirium.net. Vous pouvez aussi nous écrire, ça nous fait toujours plaisir. On poursuit donc sur cette nouvelle de laquelle on a beaucoup parlé ces dernières années, c'est-à-dire Kakuna, gros Kakuna, petit Kakuna. Vous allez me démêler avec cette histoire de Kakuna. Qu'est-ce que c'est Kakuna et qu'est-ce qui a avancé dans le dossier qui justifie qu'on en reparle?
Bon, eh bien, à la base, Kakuna, gros Kakuna, c'est un projet de port méthanier. Vous savez, un port méthanier qui est une structure qu'on veut construire pour accepter ou recevoir des gros paquebots contenant du gaz naturel. Et puis, ce projet qui est gros Kakuna, pour ceux qui ne savent pas, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, un peu plus...
Au Bas-Saint-Laurent. Dans le Bas-Saint-Laurent.
Au Bas-Saint-Laurent, merci. Un projet qui est véhiculé par Petro-Canada, Trans-Canada, Énergie. On parle de 660 millions de dollars comme projet. Un projet qui a été dénoncé par plusieurs groupes environnementalistes et puis qui vient de franchir une étape assez importante, qui est reçue comme une gifle à la figure par les opposants au projet, puisque la population s'est prononcée ce dimanche dernier en faveur du projet. Donc, on parle de 57% de la population de Gros Kakuna qui s'est dit pour le projet de port méthanier. Lorsqu'on parle de 57%, faut souligner que c'est 990 personnes qui étaient aptes à voter. Et
petite correction, excusez-moi, les gens de
Kakuna,
si on va dire. Car on a une situation quand même intéressante là-bas. C'est que avant, on avait deux villages, le village de Gros Kakuna et la plus grosse municipalité de Kakuna, qui sont en processus de fusion municipale, comme partout ailleurs au Québec. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec un référendum qui touche tous ces gens-là. Et donc, quand on parle que 57% des 990 personnes ont voté en faveur, il y a tout lieu de se demander si la majorité des gens de Gros Kakuna, voire peut-être tous, ont voté contre.
Mm-hmm.
Alors, où le projet va avoir lieu, les gens sont favorablement contre, mais quand on regarde dans un niveau un petit peu plus global,
la grande banlieue
de Kakuna, eh bien, on vote pour.
Et permettez-moi de profiter de cette interruption pour poser la question jusqu'à quel point le référendum, c'est-à-dire l'approche démocratique pour la prise en charge des enjeux environnementaux, est synonyme de bonne gestion environnementale d'un point de vue global?
C'est une excellente question puisque ça relève de toute l'orientation énergétique du Québec. Vous savez que, bon, il y a des grandes réflexions sur l'orientation du Québec par rapport au gaz naturel. Et puis, il y a eu tout le débat du Suroît l'année passée, vous vous rappelez de cette centrale thermique. Le projet de Gros Kakuna implique quand même la construction d'un oléoduc, un gazoduc, en fait, de 330 millions de dollars qui est rattaché à ce projet-là. Et puis, ça laisse sous-entendre que le Québec est intéressé et veut aller dans la veine de la consommation de gaz naturel. Vous savez qu'on est en train d'élaborer la centrale thermique de Bécancour, une centrale de cogénération qui est en train même de se faire construire et qui a quand même passé subtilement dans le collimateur de la population québécoise. Et puis, évidemment, c'est ça la question. C'est est-ce que la construction de ce port méthanier-là ne devrait pas relever...
D'orientation plus générale et stratégique.
Exactement. Donc là, la population s'est prononcée. Il faut savoir qu'il va y avoir un BAP, un bureau d'audience publique en environnement, qui va se pencher sur la question. Et puis, ben j'ai hâte de voir quelles vont être les prochaines étapes, puisque c'est totalement crucial, sachant les débats de société en ce moment avec l'énergie éolienne et l'énergie thermique.
Ceci dit, pourquoi justement ça vous semble problématique, le port méthanier de Kakuna?
Ben écoutez, ce qui est intéressant, c'est de voir les chiffres en ce moment sur le prix du gaz naturel. Vous savez que l'année passée, il y a même un an, on était dans le débat du Suroît, et puis Hydro-Québec se tarait de dire que le kilowattheure coûterait 6 cents le kilowattheure, et ça serait vraiment un bon investissement d'aller dans le gaz naturel. Aujourd'hui, si on fait des analyses, on est à 9 cents du kilowattheure, ce qui est beaucoup plus élevé que le prix...
C'est 50% en un an, là, c'est toute une augmentation.
Exactement, et c'est beaucoup plus élevé que le prix de l'éolien en ce moment qui est évalué à 6,5 cents du kilowattheure, ce qui est extrêmement intéressant et qui est à la baisse. Donc l'énergie éolienne, prometteuse point de vue environnemental et prometteuse point de vue économique, qui est en train de sacrer une solide volée à la filière thermique, et malheureusement, ce qu'on évalue en ce moment pour Bécancour, qui va être une plus grande consommatrice de gaz naturel, c'est 9,5 sous du kilowattheure que ça va nous coûter.
Mais outre le prix, là... Le gaz naturel, là, c'est pas naturel, ça, madame, ça le dit dans le nom.
Ben, c'est une source de gaz à effet de serre importante. Vous savez qu'on est dans l'ère Kyoto.
Ah non.
et la construction, entre autres, de Bécancour va faire augmenter de plus de 2% nos émissions de gaz à effet de serre au Québec seulement. Donc, quand on est en train de travailler pour réduire nos émissions, est-ce qu'un projet comme ça de port méthanier va pas à l'encontre de l'orientation?
C'est une chose qui est importante de soulever, c'est que ce type de projet-là ont aussi essayé de s'implanter en Nouvelle-Angleterre et que ces projets-là ont été refusé en 12 endroits et que de ce fameux port méthanier-là, une forte proportion, on parle de 25%, va être dirigée vers les États-Unis. Donc, est-ce qu'on doit jouer ce rôle-là, dans le fond, d'avant-poste pour les États-Unis dans ce dossier-là? Et une dernière chose, si je peux me permettre rapidement, qui me dresse le poil quand on parle de projets qui sont au niveau de l'environnement un petit peu compliqués à gérer en région, mais c'est les moyens qu'ont les gens de faire passer ces projets-là. On a le même cas à Lévis avec le projet Rabasca, qui est un autre projet de port méthanier, on voit des campagnes de marketing et de publicité s'installer pour convaincre une population du bien fondé. Et ça m'amène à vous faire ma citation de la semaine de M. Andrew Peltier, qui est dans le fond directeur des communications chez Petro-Canada, responsable des communications pour le projet de Kakuna, et qui a dit: cela, c'est-à-dire la victoire du oui au référendum à 57%, démontre une chose, que notre stratégie de communication était bonne et que les gens étaient bien informés sur le projet.
Oh,
donc, ce que cet homme-là est en train de nous dire, c'est que la bonne information, c'est celle qui justifie la création d'un port méthanier et que celle qui s'oppose, elle est mauvaise. C'est carrément ça que ce gars-là est en train de nous dire. Donc, bref, en d'autres mots, ce que ce gars-là nous dit, c'est qu'on a foutument bien crossé le monde au point tel où ils ont dit oui en leur amenant les arguments qui étaient bons.
Et voilà, belle citation.
Excusez-moi, ça fait du bien.
Non, c'était bien senti, on l'a vraiment bien senti. Donc, Andrew de Petro-Canada aux communications, la grosse logique. En terminant, juste pour clore ce dossier-là,
ben,
donc...
moi, j'ai des chiffres ahurissants sur le prix du gaz naturel. Vous savez que, juste avec Bécancour, on devrait brûler dans la première année 31 milliards de pieds cubes de gaz naturel au Québec avec cette centrale-là. Et on évalue en ce moment à 10 $ pour environ 1000 pieds cubes. Si vous faites un calcul rapide, ça va nous coûter une beurrée. Parce que le prix du gaz naturel est très instable et on le voit en ce moment avec les catastrophes naturelles et toute l'instabilité du marché du pétrole et du gaz naturel. C'est pas une voie intéressante point de vue développement durable et viable. Et c'est ahurissant qu'on est encore en 2005 à se questionner si on devrait faire des projets comme ça. Moi, je trouve ça incroyable. De la nouvelle génération montante, je trouve ça inacceptable.
Inacceptable, le mot est fort, mais juste, je pense. Merci beaucoup, les deux Nicolas, de nous avoir parlé de tout ça. Ceux qui voudront lire plus amplement, bien sûr, les informations seront mises sur notre site internet au www.radiodelirium.net. Retour à Delirium environnemental, le magazine d'information en environnement. On poursuit donc la revue de presse, revue de l'actualité. Un dossier qui a fait jaser aussi cette semaine beaucoup, c'est celui de la paix des braves qui est remis en question justement par le nouveau chef CRI. Mm-hmm. Nicolas Milo, tu brises la glace sur cette nouvelle-là.
Ça va faire plaisir, je pense, à bien des gens qui trouvaient que le développement hydroélectrique du nord du Québec était en train de se remettre un peu en branle, n'importe comment, elle va vite là sur des gros projets. Ce qui arrive, c'est que, bon, premièrement, la paix des braves, juste pour se remettre dans le contexte, c'est une entente qui a été signée en 2001 entre le gouvernement québécois, la communauté CRI, ainsi que le gouvernement fédéral qui était signataire de cette entente-là, et qui dit, dans le fond, la chose suivante, Québec doit verser des redevances de 4,5 milliards de dollars au cours des 50 prochaines années au peuple CRI. Et ce que le peuple CRI s'engage en échange, c'est que, moyennant sa participation dans les futurs projets de développement dans le Grand Nord québécois, bien, il s'engage à pas poursuivre l'État québécois, dans le fond, en cours, pour des questions de développement dans le Nord du Québec. Et dans cette entente-là, il y avait une sous-entente qui était, je crois, informelle, mais qui disait, dans le fond, que le projet de la rivière Rupert, dont on nous a parlé beaucoup le printemps dernier, allait passé, que la communauté CRI donnait son aval à ce projet-là.
On se souvient que ce projet-là entendait de dériver, justement, de dévier de sa course cette rivière-là, qui
et
est
voilà.
Une grosse rivière.
Dans le fond, ce projet-là s'inscrit dans le méga-projet Rupert-East Main, la rivière East Main, des barrages hydroélectriques. On aurait tout intérêt, si on veut produire le plus d'électricité possible, à envoyer le plus d'eau possible dans ce bassin-là. Donc, on dérive la rivière Rupert vers la rivière East Main pour augmenter la quantité d'eau qui peut servir à produire de l'électricité. Chose dite, c'est pas la première fois qu'on fait ça. On a dérivé la Kanapisco dans le Grand Nord, la rivière Portneuf sur la côte Nord. Bref, c'est pas les premiers élans d'Hydro-Québec en termes de dérivation de cours d'eau, mais c'était un projet qui était là. Et ce qui est arrivé, c'est que à la fin du mois d'août cet été, la communauté CRI a élu son nouveau chef. On se souvient que l'entente de la paix des braves a été signée avec Ted Moses, qui était leur chef. Et là, on a Mathieu Moukache, qui est le nouveau chef, et qui, lui, est un militant de longue date pour la rivière Rupert, dans le fond, pour sa préservation, et qui, lui, se manifeste clairement contre. Déjà, en début de mandat, il se manifeste contre. Donc, ça vient à dire que cette fameuse entente-là, eh bien, n'aurait peut-être plus la valeur auquel on lui accordait par le passé, et dans des dossiers plutôt pointilleux comme celui de la rivière Rupert, eh bien là, on rouvre complètement les débats à savoir si oui ou non on procède à des travaux.
Et c'est un dossier qu'on a suivi depuis longtemps, tu l'as dit, Sofiane, mais je pense que c'est intéressant, juste une petite parenthèse comme ça, on voyait encore Roy Dupuis dans le Journal de Montréal en fin de semaine sur le dossier
spécial,
de la Rupert. Cahier spécial de 20 pages, allez vous procurer ça s'il en reste dans un vieux Dunkin' Donut, dans un fond de pile. Le dossier spécial sur les rivières à protéger. La Rupert est vraiment fait partie de cette liste de rivières où est-ce qu'il y a une bonne mobilisation. Roy Dupuis en étant le parrain et ayant ce mouvement Révérence Rupert, je vous invite à aller voir le site web de Révérence Rupert pour justement protéger cette rivière-là et empêcher la dérivation. Le gros projet qu'on est en train de parler. Ce qui est intéressant à souligner dans ce dossier-là, c'est l'œuvre du gouvernement fédéral cette semaine qui vient mettre du sable dans l'engrenage, telle la presse qui est citée du 26 septembre dernier, qui nous dit, écoutez, apparemment, le gouvernement fédéral est vraiment en train de mettre des bâtons dans les roues pour la mise en œuvre de ce projet de dérivation. Avec 384 questions qui ont été remises à Hydro-Québec dans les dernières semaines sur justement les impacts environnementaux, à quel point ce projet de dérivation respecte la loi en environnement fédéral, à quel point aussi ça respecte les ententes CRI provinciales et fédérales. Donc, ce projet-là, sachant que le gouvernement fédéral est signataire de la Convention de la baie James et qu'il y a vraiment un droit de regard sur les questions environnementales, eh bien, sont en train vraiment de ralentir. Là, on parle de un projet qui était prévu pour 2009 qui serait maintenant ralenti pour même plusieurs années.
Mais je comprends pas en quoi on dit que ça remet en cause la Bête et Brave, qui était un accord qui disait notamment que la gestion devait se faire de façon conjointe justement entre les populations CRI et le gouvernement. Ça continue d'être conjoint si le nouveau chef dit « ma gang de pompons, calmez-vous un peu
okay, ». Ce qui arrive, c'est que premièrement, dans la fameuse entente informelle qu'il y avait, le cas de la Rupert était soi-disant réglé. Mm. Premièrement, c'est une chose comme ça. Deuxièmement, ce qui arrive aussi, c'est que si on transposait ce cas-là à un cas de relations internationales et qu'un pays, en l'occurrence la communauté CRI, revenait sur un accord en le contredisant simplement parce qu'il a changé de chef, en termes de relations internationales, ce pays-là se ferait complètement rabrouer par tous les autres en disant « non, quand on donne une parole, on la suit jusqu'au bout ». Bref, il y a un certain principe de loyauté à ses propres décisions qu'on développe en termes de relations internationales et que, je crois, les différentes parties en accord dans le cas de la paix des graves s'attendaient les unes envers l'autre. Or, la communauté CRI est une communauté vraiment intéressante au niveau des peuples autochtones du Québec parce que c'est une communauté qui est très revendicatrice.
Très mobilisée.
Entre autres, elle a fait dérailler le projet Grande Baleine, il y a 20 ans, 25 ans passés. On se souvient, par exemple, que les Inuits, qui étaient eux aussi impactés par le projet Grande Baleine, eux autres avaient une attitude beaucoup plus « on accepte le projet » et après ça, on négocie des compensations. Il y avait un village qui avait été créé, d'ailleurs, pour eux autres, pour, dans le fond, à agir en termes de compensation, alors que les CRI, ce sont des groupes qui revendiquent. On le voit dans plein de causes qui ont été, dont celle de Grande Baleine, qui est une figure de style vraiment intéressante pour ce cas-là. Et là, on peut s'attendre à, premièrement, c'est la Rupert, mais il y a plusieurs autres projets qui sont à l'œuvre sur le territoire reconnu par la paix des Braves pour ce qui est de la communauté CRI. Et donc, il y a plusieurs projets qui ont des impacts environnementaux qui risquent d'être considérés si ce projet-là de la Rupert, dans le fond, est reconsidéré. Dans le fond, c'est comme une première à ce qui pourrait être comme une suite d'événements comme celui-là.
Ce qui est intéressant pour conclure le dossier, qu'il va falloir suivre d'ailleurs, parce que bon, c'est le nouveau chef de la communauté CRI, et puis M. Moukache a dit qu'il voulait pas la confrontation avec le gouvernement, ni provincial, ni fédéral. Il voulait surtout pas faire recours aux tribunaux. C'est plus que il veut négocier pour réorienter la question énergétique dans le Grand Nord et dans la baie James, et essayer de s'entendre avec le gouvernement québécois pour développer la filière éolienne. Et puis vous rappelez, en 2004, on avait des études qui nous montraient le potentiel éolien incroyable dans cette région-là, et déjà l'intérêt de la communauté CRI à développer le potentiel éolien dans la région. Moi, je le prends tout à fait comme une bonne nouvelle. Si on peut relancer justement ces questions énergétiques-là, est-ce qu'on peut arrêter de faire du 100% hydroélectrique, quand bien même que, point de vue gaz à effet de serre, c'est quelque chose qui est intéressant, mais on sait que la filière éolienne et la nouvelle manne, on va vraiment pousser là-dedans, puis je pense que en tant que personne qui se préoccupe des questions environnementales, le dossier de M. Moukache et ce qu'il va défendre pour arrêter le projet de la dérivation de la Rupert est quelque chose d'extrêmement important à suivre.
Et bien sûr, ici à Délivrement environnemental, on le suivra pour vous. Au retour, on vous parle d'un autre dossier qui devrait devenir la nouvelle manne en termes d'énergie, et c'est l'autoproduction d'électricité par les individus privés, comprenez-vous, vous choses. Dossier à suivre parce que c'est peut-être une façon de s'enrichir personnellement.
T'as dit vous choses.
Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père, qui tombait encore de la neige en hiver. En ces temps, on vivait au rythme des saisons, et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. Et des années plus tard, qu'ils ont vu le non-sens dans la panique, ont déclaré l'état d'urgence. Quand tous les océans ont tendu aussi l'été et que les inondations ont frappé les grandes villes, et par la suite pendant toute une décennie, ce fut les ouragans. Je sens que je faiblis, je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité.